Mondial Sport, Cédric De Oliveira.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Mondial Sport. Beaucoup de choses à vous dire ce soir. On ira notamment en Algérie, c'est la fin des quarts de finale du CHAN. Après l'Algérie et le Sénégal, le Niger et Madagascar se sont qualifiés pour le dernier carré. Les Baréas qui continuent d'étonner. On fera un tour aussi au Gabon pour évoquer la Tropicale Amissa Bongo. Entretien avec Jean-René Bernaudot qui nous donnera son avis sur la course et le développement du cyclisme africain. Le handball aussi est la fin du Mondial masculin. La France est encore en finale et retrouve encore le Danemark, mais quel est donc le secret des Bleus pour rester au plus haut niveau depuis si longtemps? Christophe Diremzian nous en dira plus. Enfin, on prendra la direction de Melbourne pour le couronnement d'une nouvelle reine, la Biélorusse Arina Sabalenka, vainqueur de l'Open d'Australie. En attendant la finale, messieurs Djokovic-Tsitsipas, Mondial Sport, c'est parti. Voilà le chant des joueurs malgaches qui n'en finissent plus de surprendre au CHAN pour leur première compétition. Ils sont en demi-finale. Martin Guez était avec eux dans le bus qui les ramenait vers leur hôtel. Bonsoir Martin.
Bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et à tous, c'était chaud.
Hein. Allez, on vous entend de loin, vous êtes descendu du bus, mais ces joueurs malgaches,
exactement.
Étonnants et dont le parcours continue pour leur première participation au CHAN, on le disait.
Oui, exactement. Personne ne les avait vus venir. Hein. C'est Baréa, un nouveau troupeau de buffles lancé à fond sur les sentiers de la gloire. Une équipe qui rappelle, Cédric, curieusement, celle de la CAN 2019. Un maillot vert brillant, short blanc, chaussettes rouges. Et surtout du jeu, de l'envie, de l'allant. Un jeu très direct, vertical, des occasions à l'appel. Sur les hauteurs de Constantine, au cœur des montagnes, ils en ont déplacé quelques-unes. Un tarif maison dans la citadelle au perché. 3 buts par match contre le Ghana, contre le Soudan en poule, face au Mozambique cette fois-ci. Et toujours le même berger, Cédric, pour guider le troupeau. Un certain numéro 7, Koloina, apprenez à retenir son nom. L'homme du match à chaque fois, il a ouvert la voie d'un nouveau petit bijou. Une frappe du gauche à l'entrée de la surface dans la lucarne. Avant que Jean-Yves Radzafine-Drakoutou n'ajoute un deuxième but en deuxième période et que l'entrant Marcio Carlos n'y aille de son petit but, même si le Mozambique a réduit l'écart par Carvalho dans les dernières secondes, eh bien les Baréas ont survolé la rencontre, ils l'emportent 3-1, ils filent en demi et ils ont bien fêté ça, on le disait, des chansons, des feux d'artifice une fois arrivés à l'hôtel et la fameuse danse du zébu. Cédric, je vous laisserai essayer, on met deux doigts sur la tête, façon corne, on agite un peu la tête dans tous les sens.
Allez, j'essaierai ça.
Le zébu en chef qui a mené la danse. Ouais, je vous imagine bien. Celui qui a mené la danse, le zébu en chef, c'est Andunyan Rakutundradaka. Qui Ando, c'est plus facile à prononcer. Un cadre, un ancien, 35 ans, et on l'écoute.
C'est vraiment incroyable parce que notre première participation, c'est super pour nous parce que tout le monde pense que nous sommes une petite équipe, Madagascar. Et là, on a démontré que tout est possible. Depuis notre départ à Madagascar, on a pensé d'y aller le plus loin possible. On n'a pas pensé d'y aller à cette stade-là, mais on a pris le match comme finale. La fête, c'est pas encore terminé la compétition, mais il faut d'abord penser au prochain match.
Alors les Baréas qui sont en demi-finale, Martin, et qui étaient presque à la maison à Constantine.
Je voulais vous dire que la fête n'était pas finie. La finale était qu'à une marche. Oui, exactement. À Constantine, ils étaient chez eux, Cédric, hein, sur les hauteurs de la ville suspendue à près de 1000 mètres d'altitude. Ils auraient pu prendre un peu froid, mais ils ont réchauffé les cœurs. 3 buts par match, on le disait en moyenne, de quoi enflammer le public qui n'avait rien de malgache. Mais les fans habituels du CS Constantine sont tombés sous le charme des Baréas. D'abord car ils jouent en vert, comme leur club de cœur, nous ont-ils dit. Aussi car Madagascar et ses inconnus, jouant pour la plupart à Fossa Junior, un club de la capitale, ou CFFA, un centre de formation dans la banlieue d'Antananarivo, eh bien, ils ont développé un football chatoyant, séduisant, ultra ouvert, ultra offensif. Alors au fil des matchs, le public algérien s'est pris de passion, a fait la hola, a poussé des vivas à chaque fois que les Malgaches enchaînaient les passes. Les joueurs de Romuald Rakutundrabe qui ne s'y sont pas trompés, ils ont fait un tour d'honneur à la fin de la rencontre, applaudissant longuement le public constantinois, un public que l'entraîneur n'oubliera pas non plus.
On était chez nous depuis presque 2 semaines, donc je tiens à remercier le public de Constantine. Vraiment formidable, ils nous ont soutenus pendant tout au long du match aujourd'hui. J'espère, même si ça va être difficile là-bas en Alger, j'espère que le public d'Alger va nous soutenir aussi comme les gens de Constantine. Donc merci beaucoup, merci pour les gens de Constantine.
Ah oui, il va falloir déménager. Adieu Constantine, bonjour Alger, pour y retrouver le Sénégal en demi dans 3 jours.
Et prochain adversaire, eh bien vous venez de le dire, pour Madagascar, ce sera les Sénégalais.
Ouais, des Sénégalais pas aussi flamboyants que les Malgaches, mais ils sont sous une bonne étoile, celle de la CAN, obtenue il y a un an, qui continue d'éliminer tout le football sénégalais. Les jeunes joueurs de Papiao, qui n'excèdent pas 25 ans, ont énormément souffert face à la Mauritanie d'Amir Abdou, qui est restée sur 15 matchs sans défaite, mais à Annaba, dans l'est de l'Algérie, devant un public toujours bouillant. Pardon, les Sénégalais ont trouvé la clé sur un pénalty transformé par Lamine Camara, la petite pépite de Génération Foot. Et puis après, eh bien, plus rien du tout, mais l'important, ce n'est pas les 3 points, c'est la qualif. Longtemps considéré comme un perdant magnifique, le Sénégal est devenu un gagnant tactique. Pas de quoi chagriner, Papiao.
On voulait passer, qu'importe la manière. Et nous, on a fait dos rond. À un moment, on l'accepte et face à une très belle équipe de la Mauritanie. C'est nous qui continuons l'aventure. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas joué comme on voulait, mais parfois, il y a des matchs qui se gagnent comme ça. J'ai vu une autre équipe qui a montré du caractère et ça, c'est important. Il faut faire dos rond et accepter la domination et garder le score. Ils l'ont bien fait et bravo aux gamins. On va essayer de l'assumer. Place au boulot.
Et le boulot, il est pour l'instant bien fait, Cédric, mais il faudra sûrement montrer un peu plus pour dompter Madagascar mardi à Alger.
Et puis un mot rapidement, Martin, sur l'autre demi-finale, ce sera Algérie-Niger.
Ah oui, je vous ai un petit peu perdu, mais l'autre demi, elle opposera l'Algérie qui a validé son ticket tarif maison 1-0 contre la Côte d'Ivoire et qui retrouvera donc le Niger à Oran. Énorme surprise aussi dans ce tournoi, le MENA local qui avait déjà joué un quart en 2011. Et cette fois-ci, ils filent en demi. Ils avaient battu le Cameroun en poule, les joueurs d'Aruna Doula qui ont dompté le Ghana 2-0, qui s'offre l'un des plus grands exploits de leur histoire. Le plus grand, sûrement, ce serait de battre l'Algérie en demi. Ce sera aussi mardi à Oran, dans l'ouest du pays.
Et ben voilà, vous nous avez pas entendu, mais finalement, on était sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup, Martin Guez, et bonne fin de soirée. On vous retrouve demain. Vous nous parlerez d'une autre ville qui accueille le tournoi, Annaba, à travers les supporters du club local, l'USM. Ne manquez pas ça, donc, demain, dans Mondial Sport. Et puis, on en parlait à l'instant, l'Algérie, elle s'est qualifiée pour les demi-finales du CHAN en battant la Côte d'Ivoire à l'arraché. 1-0 à Baraki, c'était vendredi, un but inscrit sur pénalty par Aymen Mayous dans le temps additionnel. Un petit peu à l'image de la phase de poule des Fenecs locaux, 3 matchs remportés à chaque fois 1-0. Et les victoires à chaque fois sont obtenues de justesse, donc un service minimum, mais finalement l'essentiel est ailleurs, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger.
Se qualifier de cette manière-là pour un pays organisateur, je pense que c'est trop léger. Nous, on est déçus, pas de notre performance, mais on est déçus de l'organisation de la compétition. Je parle de l'arbitrage, je parle de l'organisation en elle-même. L'arbitre a eu la pression.
Les mots du capitaine colère d'une Côte d'Ivoire amère, persuadée d'avoir été flouée. Un carton rouge discutable, un pénalty en toute fin de match. À part ça, et si Saka n'a pas vraiment vu de différence entre sa jeune équipe et celle du pays hôte.
Le meilleur joueur algérien, c'est son public. Voilà, ils ont poussé, ils ont tout fait. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu de meilleurs joueurs pour moi.
Et pourtant, les chiffres donnent raison à Majid Bouguera et sa troupe. 4 matchs, 4 victoires, aucun but encaissé et une impression de sérénité confirmée par le gardien de but Farid Chahal.
On gère les matchs, c'est le plus important ensuite, gagner. Voilà, 1-0, 2-0, 3-0, c'est pas important. Le plus important, c'est la victoire. Voilà, nous, on est en train de gérer, on est en train de travailler aussi sur les choses négatives. Voilà, on est en train de rendre positif et comme ça, ça va faciliter la tâche pour les prochains matchs, Inch'Allah.
Des prochains matchs que l'on espère un peu plus spectaculaires, à rebours de l'image d'Épinal d'une Algérie romantique, celle de Majid Bouguera est pragmatique. 4 victoires, 1-0, 2 buts sur pénalty pour le grand frisson. On repassera en attendant le public valide, les suiveurs aussi. Faisal Salah, journaliste pour la chaîne Al24 News.
Cette équipe de Majid Bouguera a la confiance du public. C'est pas une question de séduire, parce que quand on parle de ces joueurs, c'est des joueurs, on connaît d'où ils viennent. Donc ces joueurs viennent du championnat local. Donc ces supporters, ils connaissent la capacité de leurs joueurs et surtout, ils voient la progression de ces joueurs avec Majid, parce que Majid a apporté beaucoup à cette équipe des A-Prime afin de progresser et emmener cette équipe à la victoire.
La victoire finale à domicile, c'est la seule option pour Majid Bouguera, sélectionneur d'une équipe en mission pour tout un peuple.
Voilà, on avance petit à petit sans faire du bruit, parce qu'il faut respecter les adversaires, il faut respecter chaque étape. Les joueurs, ils savent ce qu'ils veulent. Chaque match, ils veulent les gagner, donc ça veut dire qu'on veut aller au bout. Mais on va bien se reposer et après on repart à la guerre.
Prochaine bataille, mardi soir à Oran, Thomas de Saint-Léger, Alger RFI.
Et ce match mardi, on le rappelle, ce sera face au Niger. On rappelle que l'autre demi-finale opposera le Sénégal à Madagascar. Voilà pour le CHAN, le foot, il en est question aussi en Europe, avec quelques résultats à vous donner dans les grands championnats. Ça joue en ce moment notamment en France avec deux matchs de la 20e journée. Troyes et Lens ont fait match nul un partout. Petite contre-performance pour les Lensois. Et puis Marseille en ce moment est tenu en échec par Monaco un partout. Il reste une dizaine de minutes à jouer. À noter qu'en Allemagne, le Bayern Munich a été lui aussi accroché par Francfort un partout. Randal Kolo Muani a encore marqué, lui qui avait été le héros malheureux de la dernière finale de la Coupe du Monde. Alors il ne risque pas d'être transféré, Kolo Muani, en tout cas pas au mercato d'hiver qui ferme ses portes dans 3 jours. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
On va parler de ce mercato animé justement ces derniers jours par les joueurs africains. Il y a eu quelques mouvements, vous allez nous en parler. On va commencer par le prêt de l'attaquant Karl Toko Ekambi, prêté donc par Lyon au Stade Rennais.
Oui, Karl Toko Ekambi pris en grippe par les supporters lyonnais. L'ailier de 30 ans avait besoin d'un nouveau départ. Enfin presque, Cédric, un prêt sec, sans option d'achat, donc pour tenter de se relancer. Lui qui n'a marqué que 4 fois en 19 matchs joués. Sa réaction au moment de sa présentation ce matin au Roazhon Park.
Ce qui m'a motivé, c'est le challenge sportif, clairement. Je sais que le Stade Rennais est encore en lice pour la Coupe d'Europe, en lice pour une qualification potentielle avec des champions en Ligue Europa en championnat. Donc forcément, c'est un beau challenge. Et voilà, je connais déjà pas mal de joueurs dans l'équipe. Je connais l'état d'esprit du club et des joueurs. Donc voilà, c'est une fierté de pouvoir rejoindre le Stade Rennais.
Ah, il est content, Karl Toko Ekambi, qui était au dernier mondial pour le Cameroun, tout comme le milieu de terrain marocain Asdin Unai, qui lui va jouer pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, c'est le grand saut pour le jeune lion de l'Atlas, révélation de la dernière Coupe du Monde. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs cet après-midi. Unai, 22 ans et 17 sélections, rapportera environ 10 millions d'euros au club angevin.
Et 10 millions d'euros, c'est aussi le prix déboursé par Lorient, selon vos calculs, pour attirer Bamba Dieng.
L'attaquant champion d'Afrique avec le Sénégal reste donc bien en Ligue 1, barré par la concurrence à Marseille. Le jeune Lyon n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor. Les Merlus ont sauté sur l'occasion et ont vu les choses en grand. Dieng devient le plus gros transfert du club, bonus compris, Cédric. Ce qui a bien valu une présentation du joueur hier soir, maillot orange à la main devant les 15 000 spectateurs ravis du moustoir.
Eh bien, l'arrivée de Bamba Dieng, donc nouvel attaquant de Lorient, qui pourrait précipiter le départ du buteur nigérian Terem Mofi.
L'actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations et grand artisan de la bonne saison lorientaise devrait vraisemblablement se diriger vers l'OGC Nice. Lorient réclame 30 millions d'euros pour se séparer du joueur de 23 ans.
Eh bien, reste quelques jours voilà, pour boucler cette arrivée de Mofi à Nice. On verra, on vous en parlera sur RFI. Merci beaucoup, Sofiane Amazian. Et à bientôt dans Mondial Sport, peut-être d'ailleurs demain soir pour nous parler notamment du PSG.
Mondial Sport sur RFI.
Direction le Gabon à présent, où la Tropicale Amissa Bongo touche au but à la veille de la dernière étape à Libreville, la capitale. La 6e ce samedi dans les rues de Port-Gentil a été remportée par l'Estonien Karl Lok devant ses 13 compagnons d'échappée, dont faisait partie le Français Geoffrey Soupe, qui reprend du même coup le maillot jaune de leader à son coéquipier Jason Tesson. Pour l'instant, Soupe compte 29 secondes d'avance sur l'Algérien Hamza Amari et 34 sur le Mauricien Christopher Rougier-Lagan. Il est bien parti pour remporter cette 16e édition. Lui qui fait partie de l'équipe Total Energy, dirigée par l'ancien coureur Jean-René Bernodeau, qui est un grand habitué de la Tropicale. Il vient au Gabon depuis 2006, il participe aussi au Tour du Rwanda depuis 4 ans. Il a donc un regard avisé sur le peloton africain et sur la course. Olivier Pron l'a rencontré pour Mondial Sport.
Jean-René Bernodeau, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors cette Tropicale de retour, vous la jugez comment ?
Bah d'abord, la Tropicale, elle est indispensable pour le développement du cyclisme international et notamment de cet immense continent africain. Donc c'est une course où c'est surtout un état d'esprit à instaurer avec les invités pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle de développeur de talent. Et aujourd'hui, il y a un état d'esprit qu'il faut absolument mettre en place sur les équipes structurées comme les nôtres par rapport aux équipes nationales africaines qui ont besoin de cette confrontation. Donc c'est quand même la seule course au monde où la moitié du peloton, ce sont des sélections nationales africaines qui nous regardent et qui grandissent. Donc on a un vrai rôle social important à avoir.
Vous connaissez l'Afrique, vous êtes ici depuis le départ, vous êtes aussi autour du Rwanda. Vous avez une politique sur cette tropicale. Par exemple, vous me disiez, pas d'oreillettes, mes coureurs, ils n'ont pas à avoir d'oreillette sur une course comme celle-là?
Bon, d'abord, je suis contre l'oreillette parce qu'il faut développer l'intelligence des coureurs. Je pense que les briefings ont une vraie valeur. Et deuxièmement, l'oreillette, quand on court en Afrique, avec ce rôle social qu'on a très fort, on a déjà un avantage, on est bien prêt, on a fait des stages, on a du matériel, on est structuré. On ne va pas en plus augmenter ce fossé qu'on a entre nos structures pro et les jeunes équipes africaines. Donc l'oreillette, c'est le savoir-vivre, ne pas en mettre contre des adversaires qui ont besoin de nous. On ne va pas les écraser, on est déjà un peu plus fort. Et donc l'oreillette, ça veut dire quoi? Non, je suis un fervent défenseur du cyclisme authentique, avec un développeur de talent. Les coureurs, on les forme, ils ont un cerveau, ils doivent être capables de faire des choses qui sont exceptionnellement bien pour le public, c'est l'instant T. Et l'instant T, il est magique. Mais l'instant T avec l'oreillette, il ne peut pas exister.
Et côté africain, côté peloton africain, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu cette course, la tropicale. Alors après 3 ans d'absence, vous jugez comment? Ça progresse, ça régresse, ça stagne?
Bah, pour la tropicale en elle-même, le public est présent, plus qu'avant, donc il y avait sans doute un manque de revoir ses coureurs. Et puis ensuite, il y a toujours le développement, mais après c'est la culture de l'Érythrée qui a fait que ces coureurs-là ont une culture du cyclisme, ils sont à la hauteur. Le Rwanda, je veux dire qu'il stagne un peu. Et puis ensuite, on vient voir arriver le Bénin avec des coureurs qui font leur première course de leur vie, qui sont avec des professionnels. Donc vous voyez, elle a un rôle énorme. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travail, mais il y a peut-être plus de travail auprès des dirigeants qu'auprès des jeunes sportifs africains qui, eux, ont du talent, mais qui ont besoin qu'on leur amène du professionnalisme.
On voit l'Algérie, le Maroc qui était un peu au creux de la vague et qui viennent avec une nouvelle génération aussi.
De toute façon, le Maghreb, historiquement, a du cyclisme. Et il a dominé le cyclisme. Et aujourd'hui, l'Érythrée et le Rwanda les ont un peu titillés. Et je pense que c'est une belle remise en cause qu'ils ont eue. Parce que le Maghreb a d'abord, là, géographiquement, ils peuvent faire des courses internationales. Mais cette émulation, elle est importante. Et c'est vrai qu'on ne dira jamais assez merci à cette tropicale d'avoir sorti des Érythréens pour les amener autour de France, sorti des Rwandais pour qu'ils soient professionnels. Et puis que le Maghreb s'excite un petit peu pour reprendre un niveau qui était le leur avant. Ben c'est ça les valeurs du sport de haut niveau, et nous, moi je suis là que pour ça. Le business, on en parle beaucoup trop dans le sport de haut niveau, et le sport de haut niveau n'est pas très vertueux à mon avis. Et aujourd'hui, on est là que pour regarder dans le rétroviseur et puis laisser une belle trace dans notre sport qui nous a tout donné.
Et le Maurice aussi, fait une très belle tropicale et apparaît de plus en plus en forme.
Maurice, ils font du vélo, il y a du matériel, il y a des moyens. Et c'est vrai que c'est un beau petit clin d'œil qui vient de nous rejoindre, parce que ça fait une belle équipe africaine, un peu multiraciale. Ça fait encore un pays de plus qui va créer une émulation, parce qu'il n'y a que l'émulation qui compte. Parce que rien n'est impossible, il suffit que certains le fassent.
Finalement, le seul nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début, on est ici au Gabon, et on n'a pas une seule fois parlé des coureurs gabonais et de cette équipe gabonaise. On a l'impression qu'après 16 ans, 16 éditions, le seul cyclisme qui ne progresse pas et qui régresse, c'est le cyclisme gabonais.
Ouais, ça fait mal au cœur, je ne peux pas dire tout ce que je pense, mais vraiment, moi je les vois, les jeunes coureurs africains, je vois tous ces jeunes coureurs gabonais qui viennent me voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y a un problème d'éloignement, de confrontation, moi je peux les aider. Mais aujourd'hui, c'est un vrai constat d'échec. Aujourd'hui, le cyclisme gabonais est peut-être celui qui a le plus régressé. Moi, je suis persuadé que l'Afrique, la jeunesse africaine a du talent et il n'y a aucune raison, il y a un problème de culture. Alors, il y a peut-être plus de travail auprès des dirigeants que cette jeunesse à qui on va donner les bases assez facilement. Et c'est très facile, les jeunes ont envie. Maintenant, cette culture, il va falloir du temps. Moi, je suis prêt à les aider, c'est évident. Hein.
Altruiste Jean-René Bernaudot, directeur sportif de Total Énergie, interrogé par Olivier Pron. Demain, 7e et dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo entre Capesteria et Libreville. Un parcours de 133 km est prévu pour le peloton. Et du handball à présent dans Mondial Sport, puisqu'il est 22h48 à Paris, on est à moins de 24 heures de la finale du Mondial masculin en Pologne et en Suède. Une nouvelle occasion pour l'équipe de France de remporter un trophée. Il faudra battre le Danemark, double tenant du titre en finale, un nouveau classique après la finale des Jeux de Tokyo, remportée par les tricolores face aux Danois. Les tricolores qui peuvent donc améliorer leur record de titre avec une 7e étoile mondiale. Incroyable perspective pour un pays où, malgré quelques campagnes moins réussies ces dernières années, les performances restent de très haut niveau grâce à un réservoir de talent toujours bien rempli et une quête continue de l'excellence. Christophe Diremzian.
Lorsque Guillaume Gilles a retrouvé ses joueurs le 27 décembre dernier pour lancer la préparation, il savait déjà qu'il devrait se passer de 5 d'entre eux, indisponibles pour cause de blessure. Un de plus quittera le stage en cours de route, un autre devra déclarer forfait à l'issue d'un match amical. Sur les deux premiers tours du mondial, Nicolas Karabatic, son frère Lucas et l'arrière Dikamem, tous victimes de pépins physiques, sont longtemps cantonnés au banc ou aux tribunes. Les Bleus étaient pleins de bobos, à l'arrivée, ils joueront quand même la finale. Car la force de l'équipe de France est d'avoir toujours su puiser dans un réservoir de doublures aussi performantes que les cadres, le président de la fédération, Philippe Bana.
Cette éternité, elle est aussi créée par cette espèce de renouvellement par tiers de l'équipe de France. Un tiers de rookies, un tiers de middle class, un tiers de tauliers. Et c'est ça qui fait cette impression d'éternité. C'est que tu as beau perdre des gens en route ou par blessure, tu ne les perds pas complètement parce que les autres sont là pour faire le job derrière. Il y a toujours quelqu'un qui est là à la place de quelqu'un. C'est une gigantesque usine à champions qui est dans le monde entier, hein, dans les territoires d'outre-mer, et qui aujourd'hui alimente les clubs professionnels et qui ont fait des choses fantastiques depuis des années.
Quand les alter ego saisissent leur chance, cela peut donner un Rémi Desbonnets héroïque dans les buts en quart de finale contre l'Allemagne avec ses 14 arrêts, ou le jeune Thibaut Briet, venu souvent relayer Nicolas Karabatic dans un rôle d'arrière-gauche, comme Elohim Prandi, revenu en grâce, 3 ans après une première expérience ratée à l'Euro et surtout un long séjour à l'hôpital pour avoir été poignardé lors d'une altercation la nuit du Nouvel An 2022. Le Parisien a su regagner sa place, il savoure la confiance retrouvée du sélectionneur.
Je suis là où je voulais être, j'ai travaillé pour, d'arrache-pied, je me suis remis à zéro, je suis remonté petit à petit, j'ai pas été pressé. J'avais encore plein de choses à démontrer et à faire et avoir la capacité de mériter la place qui m'est attribuée par le collectif, par le staff. J'en suis très fier, ça me prend énormément au trip parce que le chemin était long et je suis fier de ce que j'accomplis et je suis heureux d'avoir eu toujours une toute petite place parmi cet énorme collectif.
L'autre aspect de la réussite, c'est la polyvalence incarnée par Nedim Remili, arrière droit de métier, passé demi-centre en bleu, autrement dit le chef d'orchestre de l'attaque. À 27 ans, le pensionnaire de Kielce en Pologne est devenu un leader mais se considère toujours en phase d'apprentissage.
Je pense qu'il y a encore énormément de choses à comprendre dans nos sports avant de pouvoir parler de maturité. J'ai encore plein de choses à apprendre sur cette manière de gérer la main, de gérer un match entier. Je joue beaucoup, je varie beaucoup entre les postes. C'est aussi un mix que je dois m'habituer à vivre. Pour l'instant, ça va, ça se passe super bien, mais j'espère pouvoir encore continuer à arriver à switcher d'un état à un autre de plus en plus rapidement dans un match pour ne pas avoir de baisse de régime.
Plusieurs options fiables à chaque poste, une filière de formation qui a fait ses preuves depuis 30 ans et génère un vivier de talents mûris dans les exigeantes sélections de jeunes avant de s'aguerrir dans les plus grands clubs de l'Hexagone et européen. La recette du succès français ne se démode pas. Elle permettra dimanche à 6 nouveaux joueurs tricolores d'obtenir leur toute première médaille internationale. Christophe Diremzian, Stockholm, RFI.
Et rendez-vous demain donc pour savoir si les Bleus remporteront le titre mondial. France-Danemark, coup d'envoi à 20h TU. Auparavant, l'Espagne et la Suède se disputeront la 3e place.
Mondial Sport, votre rendez-vous sportif.
Elle s'appelle Arina Sabalenka, elle a 24 ans et la Biélorusse a remporté l'Open d'Australie ce samedi en battant en finale la Kazakh Elena Rybakina après 2h30 de jeu, 4-6-6-3-6-4, sous les yeux de Christophe Taureau à Melbourne en Australie. Bonsoir Christophe, ou plutôt bonjour pour vous, je crois qu'il est, il est 9h à Melbourne.
Oui, bonjour, bonsoir.
Alors on parlait donc d'Arina Sabalenka, ça a été la plus forte en finale.
Oui, malgré tout, ça a été une victoire au terme d'un match avec pas mal de suspense, hein, en toute fin de match. Et j'ai envie de dire que ça a été un match de mecs, et ça n'a rien de péjoratif, hein, dans ma bouche, tant le service et le tennis d'attaque ont été une des clés de cette partie. Sabalenka a servi 17 aces, elle a frappé 51 coups gagnants, soit 47% des points qu'elle a remportés. Elle a simplement commis 28 fautes directes, ce qui est assez peu, hein, vu les risques qu'elle prend. Et ce sont des chiffres qui en disent long sur le tennis que Sabalenka pratique et qu'elle a surtout osé pratiquer dans un rendez-vous aussi important. Et malgré tout, on a cru un instant que la Biélorusse allait être rattrapée par ses démons lorsqu'elle a commis une double faute sur sa première balle de match. Mais elle a su se ressaisir, trouver le relâchement nécessaire pour finalement l'emporter à sa 4e balle de match. Et vous l'avez sans doute vu sur les images, hein, c'est allé de tout son long sur le court de la Rod Laver Arena où elle est restée allongée de longues secondes pour pleinement apprécier le moment et sans doute réaliser ce qu'elle venait de réussir.
Oui, Sabalenka qui a tenu d'ailleurs le trophée tout contre elle sur la photo officielle. C'était beau à voir, Sabalenka qu'on va écouter évidemment comblée par sa victoire.
Je suis juste super heureuse et fière. Ça ressemble bien au plus beau jour de ma vie. Je pense avoir disputé le meilleur match de ma carrière. Je suis vraiment contente que cela n'ait pas été un match facile. J'ai beaucoup aimé ce combat et je suis super contente d'avoir su gérer toutes mes émotions. Les échecs que j'ai subis dans le passé ont été très durs, mais je pense vraiment qu'ils m'ont aidée à mieux me connaître. C'était comme une préparation pour aujourd'hui. Je suis contente de les avoir perdus afin qu'ils me permettent aujourd'hui d'être une Arina différente. J'ai compris que j'étais une bonne joueuse et que je ne devais pas seulement respecter mes adversaires, mais me respecter aussi en tant que joueuse.
Arina Sabalenka a donc remporté l'Open d'Australie. Elle a enfin franchi un cap. Christophe, on peut se demander quel a été le déclic pour la joueuse biélorusse pour qu'elle puisse enfin remporter ce tournoi du Grand Chelem.
Alors je dirais peut-être pas déclic, mais sans doute davantage un travail sur le long terme. Arina Sabalenka, c'est une jeune femme très émotive et elle travaillait avec un psychologue et elle a révélé durant cette Open d'Australie qu'elle s'en était séparée. Alors visiblement, c'était pas la plus mauvaise des idées, mais c'était comme si elle avait franchement, et c'est un petit peu ce qu'elle disait à l'instant, a voulu prendre son destin en main. Et puis l'autre gros travail qu'elle a effectué, c'est son service avec l'aide d'un biomécanicien, figurez-vous, afin de trouver ce qui clochait dans sa mise en jeu. Alors un chiffre pour illustrer les soucis de la Biélorusse sur ses engagements. Elle avait commis en 2022 428 doubles fautes en 55 matchs. C'est colossal. Aujourd'hui, Sabalenka, c'est une jeune femme qui peut servir au-delà de 190 km/h. C'est plus que certains hommes sur le circuit. Et qui a aussi gagné en vitesse sur son deuxième service. Et surtout, elle commet moins de doubles fautes dans les moments important. Donc le travail paie la concernant et elle sera lundi numéro 2 mondiale derrière Iga Świątek, la polonaise, la numéro 1, qui, on le rappelle, a été battue dès les huitièmes de finale dans ce tournoi, battue par Elena Rybakina, la finaliste de cette Open d'Australie.
Voilà, Sabalenka donc, qui a été lauréate chez les dames. Christophe, avant de se quitter, demain est prévu sur la Rod Laver Arena, une finale très attendue, la finale messieurs, entre le Serbe Novak Djokovic et le Grec Stefanos Tsitsipas. Ça s'annonce électrique à Melbourne, c'est pas peu dire.
Ah, c'est pas peu dire. En plus, il va peut-être y avoir un petit peu d'orage. Il fait pas très beau aujourd'hui à Melbourne, mais c'est vrai qu'avec la très forte communauté grecque et aussi la très forte communauté serbe, il va y avoir une ambiance absolument formidable sur la Rod Laver Arena. Alors, on peut rappeler les enjeux de cette première finale en Grand Chelem de l'année. Djokovic vise un dixième titre à l'Open d'Australie, ce qui lui permettrait d'améliorer son record, lui qui va disputer sa 33e finale majeure, c'est un record dans le tennis masculin. Et puis il y a un autre enjeu, et celui-là, il intéresse les fans de Rafael Nadal, c'est que si le Serbe l'emporte, il totalisera un 22e titre du Grand Chelem, ce qui lui permettrait de rejoindre l'Espagnol dans la course au joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. À côté de Tsitsipas, lui, il vise un premier titre majeur, c'est sa deuxième finale en Grand Chelem après celle de 2021 à Roland-Garros, perdue contre Novak Djokovic, son adversaire, lors d'une rencontre, et ça, je pense qu'il s'en souvient évidemment, où il avait mené 2-0. Et puis le dernier enjeu majeur, c'est que le vainqueur de cette finale va devenir ce lundi le nouveau numéro 1 mondial. En fait, c'est comme lors du dernier US Open avec Casper Ruud et Carlos Alcaraz, on a une finale du Grand Chelem qui va sacrer le nouveau patron du circuit. Et cela, ça va évidemment pimenter cette finale entre deux joueurs qui pour le moment sont classés à la 4e et 5e place mondiale. 5e pour Djokovic, 4e pour Tsitsipas, et qui sont invaincus en 2023. Donc ce sont bien les deux meilleurs joueurs du moment qui vont disputer cette finale de l'Open d'Australie.
Eh bien, ce sera donc probablement historique. Merci beaucoup, Christophe Taureau. Bonne journée à vous. Très bonne finale à Melbourne. On y reviendra sur cette finale ce dimanche dans Mondial Sport. Voilà, je crois qu'on s'est presque tout dit. Mondial Sport, c'est presque terminé. Merci à Laurent Philippot qui m'a aidé à préparer cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'émission sur la page Facebook de Mondial Sport avez-vous apprécié? Avez-vous envie qu'on évoque un sport ou un sujet en particulier? Après tout, on est là pour vous répondre. Il me reste un petit peu de temps. On rappelle les résultats de la Ligue 1, la 20e journée, le match nul de Lens à 3-1 partout. Et finalement, on parlait de Marseille-Monaco tout à l'heure. Eh bien, il y a eu un partout entre les deux équipes également. Ça pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain qui demain accueillera Reims et tentera d'en profiter pour prendre le large. On fera le point sur le calendrier démentiel qu'attend les Parisiens, entre autres, dans l'émission. Rendez-vous demain à partir de 21h30, temps universel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI. À demain.